Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 20 octobre, ravi de vous retrouver afin de revivre ensemble 7 jours d'événements grâce à la richesse des reportages, des correspondants et des envoyés spéciaux de RFI. Cette semaine, je vous propose donc un nouveau voyage avec cette fois des escales en Allemagne, en Russie, aux États-Unis par exemple. Rendez-vous aussi avec l'actualité africaine. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver podcasté sur le site de la radio www.rfi.fr et à la page Une semaine d'actu de Facebook et sur l'application aussi RFI Pure Radio. Aujourd'hui, en pleine polémique sur le financement du parti et de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, notre invitée Julia Cagé. Elle est chercheuse et professeure d'économie à Sciences Po, à Paris donc. Elle vient d'écrire un livre puissant, passionnant, qui s'intitule « Le prix de la démocratie ». Il est publié chez Fayard. Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir à ce micro. Nous avons bien choisi la semaine car beaucoup de sujets nous ramènent à votre livre qui est un livre, je le disais, très puissant, très riche, avec beaucoup de chiffres et de tableaux.
Oui, avec beaucoup d'humour aussi, avec beaucoup d'histoire. Il y a des chiffres et des tableaux parce que je pense que quand on parle du financement de la démocratie, c'est important de mettre des chiffres sur la table. Je vais prendre un exemple. On dit en France qu'on n'aurait pas de problème d'intérêt privé qui financerait massivement la démocratie parce qu'on a mis en place des plafonds et que du coup on est protégé des dérives américaines. Qu'en est-il réellement ? Ben, il faut regarder les chiffres. Et si on regarde les chiffres, on voit quoi ? Qu'en France, en fait, les seuls individus à faire des dons sont une minorité d'individus. En moyenne, il y a moins de 1% des Français qui donnent chaque année aux partis politiques. Oui, 290 000. Ouais. Parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, il y en a 10%. Et combien donnent les Français en moyenne ? Ben, la moitié des Français déjà ne donnent pas en général. Et quand ils donnent 120 euros. Parce que c'est beaucoup, en fait, 120 euros pour un Français, pour un don à un parti politique. Mais si on regarde parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, le don moyen est de 5300 euros par an. C'est-à-dire presque le plafond de don. Et du coup, si on regarde pas les chiffres, on a l'impression qu'on est dans une démocratie égalitaire. Et dès qu'on se plonge un peu dans les données, on voit apparaître de profondes inégalités.
Alors Julia, vous écrivez « Je refuse de me résoudre à l'impuissance, au sentiment que, face à l'oligarchie et au défaut de représentativité, il n'y aurait qu'à baisser la tête et à acquiescer. » Votre livre est un livre d'engagement aussi.
Bah, c'est un livre de combat pour une démocratie qui est plus égalitaire. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, on constate partout une montée du populisme. Pourquoi ? Parce que les classes populaires ne se sentent plus représentées. Moi, je suis d'accord avec le constat. Quand les classes populaires disent les partis de gauche, les partis de droite ne nous représentent plus, ne répondent plus à nos préférences politiques, les classes populaires ont raison. Par contre, je ne suis pas d'accord avec la solution. Je pense que la solution, ce n'est ni l'abstention, ni le populisme, ni le vote pour l'extrême droite. La solution, c'est de faire quoi ? C'est de faire en sorte que les femmes et les hommes politiques répondent à nouveau aux besoins et aux préférences des classes populaires. Comment ? En limitant le poids des intérêts privés dans le jeu démocratique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les femmes et les hommes politiques sont partis à la chasse aux dons privés, sont partis à la chasse aux chèques et ne sont plus partis finalement à l'écoute des classes populaires. Donc ce qu'il faut faire, c'est réformer en profondeur la manière dont est financée aujourd'hui la vie politique en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Et du coup, c'est un livre de recherche, mais c'est un livre
de propositions
combat
également.
Avec des propositions pour faire en sorte que demain, la démocratie fonctionne un peu mieux qu'aujourd'hui.
Avant de vous retrouver, Julia Cagé, écoutons ce reportage. Ce n'est pas l'événement le plus important de la semaine, mais il est symbolique et surtout sympathique. C'est le retour mercredi dans la ville où il a grandi, Bondy, dans le nord de la région parisienne, de la star du football français, que dis-je, de la star du football mondial, Kylian Mbappé, Grégoire Sauvage.
C'est toute la ville de Bondy qui s'est donné rendez-vous au stade Léo Lagrange, là où Kylian Mbappé a touché ses premiers ballons pour célébrer le retour de leur champion du monde.
Moi, je suis content parce qu'il habite à Bondy. Bah, il court vite, il joue bien au foot et tout ça.
C'est un modèle que beaucoup de jeunes de maintenant aimeraient suivre, quoi.
Je trouve que c'est un jeune homme qui est formidable, qui est correct, qui est bien, qui est généreux surtout.
Il veut tout donner pour les associations, enfin voilà. Il a un très bon cœur.
Après un peu plus de 2 heures d'attente, Kylian Mbappé arrive enfin sur la scène dressée pour l'occasion par la municipalité.
Beaucoup d'émotion de revenir ici dans ma ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai quasiment tout fait ici et de revenir comme ça en tant que champion du monde, je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire.
Pour les enfants présents, c'est un rêve qui se réalise.
Je ne l'ai jamais vu en réalité, que dans la télé. Moi je l'aime bien, c'est un mec qui parle pas beaucoup mais il joue bien.
Bah normalement je le vois que à la télé, mais là dès que je le vois maintenant, donc il y a une sensation quoi.
Et à la question qui pour remporter le Ballon d'Or cette année, une seule réponse.
Mbappé, c'est sûr.
Moi je veux que ce soit Mbappé.
Mbappé, c'est sûr.
Alors économiste, chercheuse à Sciences Po, grosse tête comme on dit familièrement, Julia Cagé, vous êtes aussi une amatrice de football.
Oui, moi j'aime beaucoup le foot. Ces images et ce reportage me touchent énormément, surtout que quand même après la Coupe du Monde, Emmanuel Macron a un peu capturé la victoire à l'Élysée pour en faire une espèce d'événement, Monsieur Benalla également, médiatique. Donc ça fait du bien de voir les joueurs retourner dans leur ville, ça fait du bien d'entendre tous ces enfants qui sont heureux. Et c'est bien d'avoir des moments de communion populaire comme ça.
Alors revenons à cet ouvrage, à votre étude, Le prix de la démocratie. Il y a deux aspects dans votre travail, Julia Cagé. Il y a ce travail que vous faites sur le financement privé de la politique, des partis politiques, et un travail que vous faites sur le financement public, qui sont deux choses totalement différentes.
Qui sont deux choses totalement différentes et qui sont deux choses en même temps en partie liées. Pourquoi ? Quelles sont les formes que prend aujourd'hui le financement public de la démocratie en France ? Il y a trois formes. D'une part, il y a le remboursement des dépenses de campagne. D'autre part, il y a le financement public direct des partis politiques. Et la troisième forme du financement public, qui est quasiment aussi importante en montant que le financement public direct des partis politiques, c'est quoi ? Ce sont les déductions fiscales associées aux dons aux partis politiques. Et ça, je veux vraiment m'arrêter là-dessus parce que c'est un des scandales que je mets à jour dans ce livre. Ouais. Et si on pouvait commencer par changer ça, je pense qu'on améliorerait quand même pas mal les choses. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France ? Si vous faites partie des 10% des Français aux revenus les plus élevés et que vous donnez 7500 euros à un parti politique, le coût réel pour vous n'est que de 2500 euros. Les 5000 euros restants sont pris en charge par l'ensemble des citoyens et par l'ensemble des contribuables français, puisque vous avez le droit à une déduction fiscale de l'ordre de 66% des dons. Maintenant, si vous êtes un Français modeste, pour commencer, vous n'allez certainement pas donner 7500 euros par an à un parti politique parce que vous n'en avez pas les moyens. Mais même si vous donnez ne serait-ce que 300 euros à un parti politique, le coût réel pour vous est de 300 euros. Parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui ne veut pas dire que vous ne payez pas d'impôts, par ailleurs vous payez énormément d'autres impôts. Mais comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas de la déduction fiscale associée. Ce qui veut dire qu'en France aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. C'est profondément injuste, c'est régressif fiscalement, et il faudrait mettre fin à cette inégalité. Du coup, ce que je propose moi dans le livre, c'est que sur le financement public, on remette tout à plat. On supprime les déductions fiscales associées aux dons privés. On remet également à plat le financement public direct tel qu'il existe aujourd'hui. Et je fais une proposition que j'ai appelée les bons pour l'égalité démocratique, qui est une nouvelle forme publique de financement de la démocratie qui est à la fois plus égalitaire que le système actuel et plus dynamique.
Alors, le financement public avait fait des progrès ces dernières années, mais force est de constater en lisant votre livre que, on va parler des États-Unis dans un instant, que ce financement est en régression. Il y a des remises en cause, y compris en Europe aussi, on parlera de l'Allemagne.
Oui, il faut parler de l'Allemagne, il faut parler de l'Italie, il faut parler des États-Unis. On a pris du temps à réguler les démocraties un peu partout dans le monde. Les premières vraies politiques de régulation des démocraties, ça a été au début des années 1970, par exemple en Italie ou aux États-Unis. En France, on s'y est pris beaucoup plus tard, on s'y est pris à la toute fin des années 1980. Donc en fait, c'est une innovation qui est relativement récente. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Aujourd'hui, on constate un détricotage complet des systèmes de financement public de la démocratie qu'on avait mis en place. L'exemple le plus frappant, c'est l'exemple américain. Et une des choses que je fais dans le livre, c'est que je fais un tour du monde pour essayer de tirer les leçons des échecs
et
avoir des
propositions
qui pourraient marcher beaucoup mieux. Quel a été l'échec du système américain ? C'est qu'aux États-Unis, on a mis en place un système de financement public de l'élection présidentielle relativement tôt, en 1974, et relativement généreux. Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce qu'au moment où on a mis en place ce système aux États-Unis, on a donné
du Watergate, il faut rappeler. Enfin,
c'était après le Watergate. En fait, ce qui est intéressant dans le cas américain, c'est que très tôt, il y a eu une volonté d'avoir un financement public de la démocratie, puisque Roosevelt, le premier, en parle dès le début du XXe siècle. Et il dit, au début du XXe siècle, ça va prendre extrêmement longtemps à être mis en place, parce qu'on aura du mal à faire passer ça dans le débat. Et souvent, il faut des chocs négatifs, finalement, pour faire changer les choses. Aux États-Unis, ça a été le Watergate. Même si ça avait été en discussion dès 1970-71, tout est en place en 1974. Sauf que, en fait, le verre était dans la pomme dès le départ, puisqu'on dit aux candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis, vous avez le droit à un financement public et on va vous rembourser l'intégralité de vos dépenses de campagne jusqu'à un certain plafond. Mais on vous laisse la possibilité de dépenser au-delà de ce plafond. Simplement, dans ce cas-là, vous n'aurez aucun financement public. Donc vous pouvez choisir, en fait, soit vous avez un financement public mais c'est limité, soit vous reposez sur votre argent privé ou sur des dons privés et vous faites ce que vous voulez.
Et c'est ce qui se passe.
Et en fait, le premier à avoir fait ça, c'est malheureux d'un point de vue historique, le premier à avoir fait ce choix, c'est Barack Obama en 2008, et depuis 2012, l'ensemble des candidats ont fait ce choix pour l'élection générale, et 2016, en fait, c'est la première fois, si on considère l'élection ou les primaires, qu'il n'y a eu aucun financement public de la démocratie aux États-Unis. Et on a Trump derrière. Et en Italie, en fait, on a exactement la même chose qui s'est passée. On a eu un détricotage progressif du financement public. 2018 en Italie, c'est la première élection depuis 1974 qui s'est faite sans aucun remboursement public des dépenses de campagne. Et on a quoi ? On a la Ligue et le mouvement 5 étoiles.
Sept jours dans le monde.
Et partons pour les États-Unis maintenant, Julia Cagé. Le Washington Post a publié mercredi ce que le quotidien américain présente comme la dernière contribution de Jamal Khashoggi, dans laquelle le journaliste saoudien disparu écrit sur la nécessaire liberté de la presse dans le monde arabe. Correspondance d'Anne Corpé.
Ce dont le monde arabe a le plus besoin, c'est la liberté d'expression. Le titre de la dernière tribune de Jamal Khashoggi résonne comme un éloge funèbre au-dessus de son portrait brossé en noir et blanc. Dans une courte préface, le rédacteur en chef du Washington Post écrit « J'ai reçu cet article au lendemain de la disparition de Jamal Khashoggi. Nous avons retardé sa publication dans l'espoir qu'il revienne le mettre en page avec nous, mais je dois l'accepter, cela n'arrivera pas. » Triste ironie, le dernier texte du journaliste saoudien est un vibrant plaidoyer pour la liberté de la presse. Il évoque les espoirs suscités par les printemps arabes de 2011 et décrit la poigne de fer qui s'est depuis refermée. Le journaliste évoque un ami écrivain saoudien emprisonné, la saisie d'un journal par les autorités égyptiennes et il se désole. Ces actions n'entraînent plus de représailles de la part de la communauté internationale. Elles ne déclenchent plus qu'une condamnation rapidement suivie d'un silence. Jamal Khashoggi conclut avec un dernier appel. Le monde a besoin d'une plateforme pour les voix arabes. La création d'un forum international indépendant isolé des gouvernements qui prêchent la haine dans leur propagande permettrait aux citoyens ordinaires du monde arabe de résoudre les problèmes auxquels ils font face.
À retenir aussi dans cette très étrange affaire, de nouvelles révélations du côté de la Turquie, jeudi, à Istanbul, donc, Anne Handlauer.
Jusqu'ici, les autorités turques, officiellement silencieuses jusqu'à la fin de l'enquête, distillaient officieusement dans la presse des fuites attestant la mort de Jamal Khashoggi, avec force détails de plus en plus macabres. Désormais, leurs révélations sur l'affaire mettent en cause directement le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Le quotidien pro-gouvernemental Sabah a publié des images retraçant les mouvements à Istanbul d'un officier des services de sécurité proche de l'homme fort d'Arabie Saoudite et présenté comme le chef du commando de 15 Saoudiens soupçonnés d'avoir assassiné le journaliste. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit le principal suspect, Maher Abdulaziz Moutreb, entrer dans le consulat le matin de la disparition de Jamal Khashoggi, puis dans la résidence du consul, puis quittant un hôtel avec une grande valise et enfin avant de s'envoler à l'aéroport d'Istanbul. Ces derniers jours, les policiers turcs ont fouillé pendant de longues heures le consulat et la résidence consulaire. Selon la chaîne d'information Qatari Al Jazeera, qui cite des sources proches de l'enquête, les policiers auraient notamment trouvé sur place des empreintes digitales d'un autre membre du commando, un médecin légiste spécialisé dans les autopsies.
À suivre, bien sûr, dans nos journaux. Revenons maintenant sur un schisme dans l'église orthodoxe qui a des implications politiques importantes. Une rupture entre l'église de Moscou et celle de Constantinople, correspondance de Daniel Valo.
C'est à l'issue d'un synode de plusieurs heures que la décision est annoncée. Le patriarcat de Moscou renonce à toute relation avec celui de Constantinople. « Nous n'avions pas d'autre choix, pas d'autre solution », explique très solennellement le métropolite Hilarion, chargé de la diplomatie au sein de l'Église russe. Cette rupture n'a qu'une seule origine, qu'une seule explication, la reconnaissance par Constantinople de l'indépendance des églises ukrainiennes vis-à-vis de Moscou, une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir pour l'Église russe, laquelle perd en Ukraine une large partie de son influence et de ses fidèles. En prononçant la rupture avec Constantinople, Moscou ouvre une crise très grave au sein du monde orthodoxe. Les 300 millions de fidèles qui composent la communauté vont devoir en effet choisir entre les deux camps. D'un côté, le patriarcat de Constantinople, le plus ancien, doté de la plus haute autorité spirituelle. De l'autre, le patriarcat de Moscou, de loin le plus puissant et le plus influent, puisqu'il contrôle, entre guillemets, plus de 100 millions de fidèles.
Alors partons maintenant pour l'Allemagne avant de vous retrouver, Julien Cagé. Après la défaite des conservateurs aux élections régionales de Bavière, défaite donc de la CSU, victoire des écologistes et de l'extrême droite, à Berlin lundi, Pascal Thibault.
Les élections bavaroises s'achèvent par un Waterloo pour la grande coalition. La CSU, qui a depuis des mois critiqué Angela Merkel et provoqué des turbulences à Berlin, a été sévèrement sansionnée. Les chrétiens sociaux affaiblis vont panser leur plaie et régler quelques comptes en interne, mais peut-être aussi contre la chancelière. Dans deux semaines, la CDU d'Angela Merkel doit affronter en Hesse une élection générale où le tenant du titre, un chrétien démocrate, pourrait aussi être sévèrement sanctionné. Angela Merkel, déjà affaiblie, serait un peu plus menacée alors qu'elle remet son mandat à la tête de la CDU en jeu lors d'un congrès du parti début décembre. Le troisième parti au sein de la grande coalition, le SPD, ressort KO du scrutin d'hier. Avec moins de 10%, c'est une humiliation pour les sociaux-démocrates. Si dans deux semaines les résultats en Hesse ne sont pas bons, les débats autour du bien fondé d'une grande coalition pourraient redoubler. Un nouveau départ du gouvernement où les querelles et les crises disparaîtraient pour une gestion plus sereine est-il possible? Avec des sondages catastrophiques, CDU, CSU et SPD n'ont aucun intérêt à provoquer des élections anticipées.
Suite d'une semaine d'actualité, merci de votre fidélité. Nous sommes toujours en compagnie de Julia Cagé qui vient d'écrire Le prix de la démocratie, un livre passionnant, complet aux éditions Fayard et d'actualité également. Dans votre livre, Julia, vous parlez beaucoup de l'Allemagne. D'abord un commentaire sur ce qui s'est passé en Bavière et sur la situation un peu plus fragile aujourd'hui d'Angela Merkel.
Oui, sur ce qui me frappe vraiment, sur ce qui s'est passé en Bavière, à vrai dire, c'est le fait qu'on a le parti d'extrême droite, l'AFD, qui est pas loin de, enfin, qui est passé devant d'ailleurs le SPD, qui est passé devant la gauche allemande. L'Allemagne, c'est extrêmement frappant hein, pour voir ce qui est en train de se passer en termes de poids croissant des intérêts privés dans le jeu démocratique et le fait que ça fasse le jeu des populismes. Pourquoi ? L'Allemagne, c'est un pays où il n'y a absolument aucune limite au montant des dons qui peuvent être faits aux partis politiques et aucune limite au montant des dépenses électorales qui peuvent être mises en place. Quand je dis aucune limite en Allemagne, ça veut dire qu'en Allemagne, non seulement les individus sont autorisés à donner, mais également les entreprises. Or, qu'est-ce qu'on constate en Allemagne ? L'Allemagne a un mérite par rapport à la France, c'est celui de la transparence. Donc au moins, pour l'Allemagne, on a toutes les données et on peut voir qui donne, combien, à qui. Qu'est-ce qu'on constate en Allemagne ? C'est que parmi les plus gros donateurs aux partis politiques, on retrouve quoi ? Toutes les entreprises qui sont tournées vers l'exportation, notamment les entreprises automobiles, également l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique. Ce qui est drôle, enfin drôle, ironique, triste en fait, en Allemagne, c'est quand on regarde les données, on voit quoi ? Si vous prenez BMW, si vous prenez Volkswagen en Allemagne, c'est pas des entreprises qui font des choix politiques clairs. Elles donnent à tous les partis, tous les ans, en même temps.
C'est-à-dire plus que... quasiment 2 millions d'euros.
Plus de 2 millions d'euros pour l'industrie automobile. C'est une industrie qui va financer le SPD, c'est une industrie qui va financer la CSU, la CDU, c'est même une industrie qui va financer les Verts en Allemagne. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on donne à tous les partis ? C'est pas qu'on cherche à faire élire tel ou tel parti, sinon on financerait pas tous les partis en même temps, de la même manière. Non, on cherche à s'assurer de la mise en place de politiques qui soient favorables à notre secteur.
Un retour sur investissement, en quelque sorte.
Un retour sur investissement. Et pour le coup, ça marche très bien en Allemagne, puisqu'on a eu des politiques tournées vers l'export depuis toutes les dernières années. Or, qui en Allemagne a été le premier à faire cette politique tournée vers l'exportation avec une compression des salaires extrêmement forte ? C'est le SPD. C'est Gérard Schröder en Allemagne qui a été le premier à flexibiliser le marché du travail. Et Après, il ne faut pas s'étonner que demain, finalement, les classes populaires allemandes ne se sentent plus représentées par les sociodémocrates et se tournent, c'est malheureux, vers l'extrême droite. Et encore une fois, moi, je suis d'accord sur le constat. Je ne suis pas d'accord du tout sur la solution. Je ne pense pas que la solution, ça soit l'AFD. Au contraire, c'est vraiment le repoussoir. Mais quand même, sur le constat, il faut bien s'apercevoir de ce qui est en train de se passer. Et si on ne régule pas ça, si dans les pays où les dons des entreprises ne sont pas interdits, on ne les interdit pas, si on ne limite pas davantage le poids de l'argent privé et les montants autorisés des dons des individus, ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on voit ailleurs dans le monde, ça va se continuer et ça va ne faire que s'aggraver puisque de facto, qu'est-ce qu'on constate ? Les inégalités économiques ne cessent d'augmenter. Les inégalités économiques augmentant, finalement, les plus riches ont de plus en plus de quoi financer la vie politique. Et donc, on a une espèce de cercle vicieux qui s'enclenche entre inégalités économiques qui viennent nourrir les inégalités politiques, qui viennent nourrir ensuite les inégalités économiques à travers les politiques, notamment fiscales, qui sont mises en œuvre.
Alors, on va parler de la France dans un instant, Julia Cagé, mais vous faites aussi un détour dans votre livre très riche par l'Inde et aussi par le Brésil. Arrêtons-nous au Brésil. En quoi ce pays est-il intéressant dans votre démonstration, dans votre étude sur le financement de la vie politique en général et des partis?
Le Brésil, c'est extrêmement intéressant.
Il faut rappeler que dans une semaine, il y a une élection présidentielle importante, pour le moins, au Brésil.
Oui, ce qui est triste, c'est qu'au Brésil, en fait, tout ce qui s'est passé ces dernières années est venu beaucoup trop tard. Qu'est-ce qu'on va voir dans une semaine, malheureusement? On va voir la victoire du candidat d'extrême droite, Bolsonaro, et la défaite du Parti des Travailleurs. Pourquoi on a cette défaite du Parti des Travailleurs? On va pas revenir sur tous les détails autour de Lula, mais ce qui s'est passé quand même fondamentalement au Brésil, c'est un scandale de corruption. Un scandale de corruption autour de quoi? Autour du financement des partis politiques. C'est des pots de vin. D'ailleurs, ça n'a pas été fait qu'au Brésil, mais à peu près dans toute l'Amérique latine. Et ça a été fait en France. Également à la fin des années 80, on a vu la même chose en Italie, c'est pas une spécificité brésilienne, mais ce sont des partis politiques qui se financent en prélevant des pots de vin sur les entreprises qui obtiennent des marchés publics. Ce qui est intéressant au Brésil, c'est que la réaction à ça est venue bien trop tard, mais a été saine, puisqu'on a interdit en 2015 les dons des entreprises au Brésil, on a limité les dépenses de campagne pour les élections locales, et a été annoncé en 2017 la création d'un fonds public de financement de la démocratie brésilienne, en disant mais il y a plus de dons des entreprises, sauf que les entreprises donnaient beaucoup au Brésil, donc il faut bien remplacer cet argent privé par de l'argent public. Et ce fonds, il a été insuffisamment doté, mais surtout, c'est venu trop tard. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est au moins de voir que dans un pays comme le Brésil, avec la crise démocratique qui est en cours aujourd'hui, on a eu cette réaction saine qui a été de dire... Ok, il y a un problème de corruption, il y a un problème d'argent privé, donc on va limiter l'argent privé, on va mettre en place un système de financement public. Encore une fois, c'est trop tard, j'ai bien peur qu'avec Bolsonaro, ça ne dure pas. Dans les autres démocraties, notamment en Occident, on prend le chemin inverse et on est en train de détricoter nos systèmes de financement public, et ça me semble extrêmement dangereux.
En France. Et l'actualité en France, ces derniers jours, ce sont des inondations meurtrières dans le sud du pays, dans le département de l'Aude, à Trèbes notamment, une cité déjà meurtrie par le terrorisme. Dans cette ville en périphérie de Carcassonne, 6 personnes sont décédées sur 14 dans tout le département, après que l'Aude est sortie de son lit dans la nuit de dimanche à lundi, semant le chaos dans les maisons, les immeubles et les commerces. On vous en a parlé dans nos journaux avec nos envoyés spéciaux. La France donc, et là nous allons parler politique, Julia Cagé a donc un nouveau gouvernement, il a fallu attendre 2 semaines pour qu'il soit remanié après le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Une longue attente et tout cela pour ça, constatait la presse mercredi. Valérie Gasse.
Emmanuel Macron a fait le choix de la confiance. Il a remplacé un proche par un autre proche, un marcheur de la première heure par un autre marcheur de la première heure, Gérard Collomb par Christophe Castaner. Christophe Castaner n'avait pas caché son intérêt pour le ministère de l'Intérieur. Il a obtenu ce poste dans lequel il va être secondé par un expert, le patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, spécialiste de la lutte antiterroriste, Laurent Nunez. Ce n'est pas l'attelage qui avait été évoqué au départ. On parlait de Frédéric Pechnard, ancien patron de la police police nationale qui a certainement été desservie par sa proximité avec Nicolas Sarkozy. Dans ce remaniement, le chef de l'État a aussi envoyé un signe clair en direction de son allié, le MoDem de François Bayrou. Jacqueline Gourault prend la tête d'un grand ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et Marc Fesneau, le chef des députés MoDem, remplace Christophe Castaner au ministère des Relations avec le Parlement. La nomination de Didier Guillaume, ancien sénateur socialiste au ministère de l'Agriculture, et de Franck Riester, ancien membre du parti Les Républicains, à celui de la Culture, peaufine l'équilibre politique du gouvernement où quelques nouveaux font leur entrée, dont le député En Marche de la Jeune Garde, Gabriel Attal, nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale.
Mardi soir, Emmanuel Macron est intervenu à la télévision après ce remaniement pour une allocution destinée à resituer en quelque sorte son action. Écoutons un extrait de ses propos.
Par ma détermination, ou mon parler vrai, j'ai pu déranger ou choquer certains. Et j'entends les critiques. Je n'ai pour ma part qu'une boussole. C'est la confiance que vous m'avez donnée en mai 2017. Depuis 17 mois, le Premier ministre et son gouvernement ont pris des décisions importantes. Souvenez-vous, il y a seulement un an, combien nous disaient sur tant de ces réformes que c'était impossible. Et pourtant, cela était fait. C'est pourquoi il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Ce dont vous pouvez être sûr, au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action qui n'a rien perdu de son intensité et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore.
Justice et politique aussi maintenant. Des perquisitions ont été menées mardi matin au siège de la France Insoumise et chez son leader Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'enquêtes sur des emplois présumés fictifs de parlementaires européens et sur les comptes de campagne de l'ex-candidat qui a dénoncé une énorme opération de police politique, fin de citation, le jour du remaniement. Des perquisitions filmées par des militants de la France Insoumise et qui ont été diffusées sur toutes les chaînes de télévision à l'Assemblée mercredi. Jeanne Richard.
Un à un, les cadres de la France Insoumise font le tour des médias pour dénoncer une opération politique et disproportionnée. Selon eux, la colère expliquerait l'attitude violente de Jean-Luc Mélenchon qui a été filmé. Le tribun, lui, ne regrette pas.
Le sujet n'est pas mon comportement, je suis dans mon bon droit. C'est un acharnement qui est destiné à nous impressionner. Demandez-vous ce que ça fait de voir arriver chez vous 3-4 hommes armés le matin. Bon, le ton est monté. Voilà.
Mais pour Nicole Belloubet, ministre de la Justice, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon est indigne.
Les images que nous avons vues, qui semblent faire primer le coup de force sur la loi, qui semblent démentir l'existence d'une indépendance de la justice, je le dis, me semblent choquantes et inacceptables.
L'affaire est commentée par les autres forces politiques. Et pour Philippe Gosselin, député Les Républicains, si la forme est ahurissante, le fond mérite débat.
Quand j'ai vu les images, j'ai trouvé quand même, franchement, un peu hystérique, pas au sens médical du terme, enfin en tout cas complètement excessif, Mélenchon, même si il pose une vraie question. Comment et dans quelles conditions la justice peut-elle perquisitionner, rentrer dans des locaux d'un parti politique ?
Désormais, selon lui, il faut calmer les esprits. Jean-Luc Mélenchon aussi affirme vouloir éviter l'escalade judiciaire.
Le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête après les accrochages lors de ses perquisitions au siège de la France Insoumise et chez son leader Jean-Luc Mélenchon. Suite d'une semaine d'actualité, alors là Julia Cagé, le sujet est quasiment fait pour vous. Parlons un instant du financement de ce parti, la France Insoumise, et de ses frais de campagne. Je croyais que tout avait été validé par la commission des comptes de campagne.
Il y a un problème en France aujourd'hui, c'est qu'on a une institution de contrôle des comptes de campagne et des comptes des partis politiques, la CNCCFP, donc la Commission nationale des comptes de campagne, dont le nombre de membres ne cesse de diminuer depuis des années. On a une institution de contrôle qui doit contrôler des comptes de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à lire, et on ne lui donne pas les moyens de travailler correctement. Et ça, je veux dire, on peut discuter ensuite du cas Mélenchon. Je pense qu'il faut attendre finalement les déclarations de la justice, hein, voir s'il y a eu ou pas surfacturation. Mais quand même, c'est pas ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en France, cette commission a les moyens de faire son travail correctement. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a moins de gens qui travaillent aujourd'hui pour cette commission qu'il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas non plus intérêt à avoir une commission des comptes de campagne qui contrôle de trop près les comptes de campagne. Il y a un travail qui a été fait par les journalistes, d'ailleurs, dès que les comptes de campagne ont été mis à disposition. Il y a Le Monde, pas que Le Monde, il y a plusieurs médias. Les comptes de Macron, les comptes de l'ensemble des candidats ont été épluchés. Ça a permis de révéler un certain nombre de faits. Moi, ça me paraît extrêmement sain qu'on étudie de très près ces comptes de campagne. Par contre, il y a une dimension qui manque aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faudrait changer la loi française. Tout à l'heure, on parlait du Brésil, de l'Inde. Au Brésil, en Inde, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, quand vous donnez au-dessus d'un certain montant à un parti politique, votre don est public. Non seulement il est public, mais il est publié en ligne. Donc on sait qui sont les principaux donateurs des partis politiques et pourquoi on fait ça, justement pour voir si parfois il n'y a pas conflit d'intérêts et pour essayer de limiter ces conflits d'intérêts. En France, aujourd'hui, il n'y a aucune transparence sur les dons. Donc notamment, on ne sait pas qui a financé la campagne de Jean-Luc Mélenchon, mais surtout on ne sait pas non plus qui a financé la campagne d'Emmanuel Macron. Moi, je trouve qu'il faudrait introduire de la transparence. D'ailleurs, c'est pire que ça, parce que en fait, quand on est chercheur et qu'on va à la Commission nationale des comptes de campagne pour voir la structure des dons reçus par les différents candidats, les pauvres à la Commission nationale des comptes de campagne, ils sont obligés de tout anonymiser en amont, ce qui fait des charges de travail extraordinaires et ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas vraiment tout éplucher parce que tout n'est jamais disponible à temps.
Alors, donc, ça veut dire qu'en France, il y a à la fois des financements privés et des financements publics. Les financements privés étant plafonnés aussi, non ?
Ce qui est plafonné en France, c'est le montant des dons peuvent être faits. Donc, vous ne pouvez pas donner plus de 7 500 € par an à des partis politiques et vous ne pouvez pas donner plus de 7 500 € par an à des campagnes électorales. Même si ça vous permet de donner beaucoup, hein, parce que pour quelqu'un qui était soutien d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017, il a pu donner 7 500 € à En Marche fin 2016. Il a pu redonner tout début 2017 7 500 € à En Marche, ce qui faisait déjà 15 000 €. Ensuite, il a pu donner en plus 4 600 € pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et 4 600 € supplémentaires pour les élections législatives. Donc à l'arrivée, il a pu donner 25 000 € en l'espace de quelques mois. On dit que c'est limité, certes c'est limité, 25 000 €, c'est pas 25 millions d'euros, mais pour la plupart des Français, 25 000 €, c'est au-dessus de leur salaire total de l'année.
Et donc, il y a aussi un financement public avec des remboursements de frais de campagne.
Oui, alors en France, on a mis en place à la fin des années 1980. Donc, il faut savoir comment ça s'est passé en France pendant longtemps. Pendant longtemps, en France, on n'avait pas le droit officiellement de donner de l'argent aux partis et aux campagnes, et il n'y avait pas de financement public. C'est ce qui s'est passé entre 1901, ce qui est la date avec la loi sur les associations qui a permis la création officielle des partis politiques, et 1988, ce qui fait quoi ? Qu'on avait beaucoup de financement sous la table, parce qu'il fallait bien que les partis vivent. Donc en 1988, on s'est dit, on va changer tout ça et on va introduire des réformes. Il y a un certain nombre de réformes importantes qui ont été introduites, qui, un, on a autorisé les dons, mais en autorisant les dons, ce qu'on a fait également, c'est qu'on les a limités. Et deux, on va mettre en place un système de remboursement public des dépenses de campagne. Donc les candidats pour la présidentielle qui ont obtenu plus de 5% des voix au premier tour peuvent se voir rembourser jusqu'à 47,5% du plafond des dépenses sur les dépenses qu'ils ont engagées de manière personnelle. Ce qui veut dire que notamment, vous ne vous faites pas rembourser les dépenses que vous avez financées avec des dons. Oui. Bon, pas qu'il y ait un double remboursement. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un peu d'argent public qui est mis dans le jeu politique, moi, ce qui me paraît extrêmement bien. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des discussions à avoir sur ce plafond de 5%, parce que ça fait qu'il y a un certain nombre de partis politiques, eux, ne se voient pas rembourser leurs dépenses de campagne.
Mais là, je reviens à cette enquête de nos confrères de Radio France autour de la société Mediascope qui finançait, semble-t-il, la campagne de Jean-Luc Mélenchon avec des tarifs visiblement, selon cette enquête, surfacturé.
Non, pas qui finançait, qui travaillait pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il faut quand même être très au clair sur ce qu'on dit. Le scandale aujourd'hui, ce qui est en train de se jouer autour de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas sur les financements. On n'est pas dans le cas de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas des interrogations sur un financement libyen de la campagne de Jean-Luc Mélenchon ou sur le fait qu'il aurait minoré le montant des dons qu'il a reçus. A priori, de ce côté-là, du côté des financements, tout est au clair et tout est transparent. Le problème, c'est du côté des dépenses. La question, c'est est-ce qu'on a eu un certain nombre de dépenses qui ont été surfacturées ? Ce qui veut dire quoi ? D'une certaine manière, il y aurait eu un détournement d'argent public puisqu'on aurait remboursé des dépenses à un prix bien plus élevé que le prix effectif auquel elles auraient dû être facturées.
nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Avant de partir pour l'Afrique, un salut comme chaque semaine à quelques auditeurs qui nous écoutent sur le continent et qui nous ont écrit aussi à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Josué qui nous écoute à Bamako, Gabriel qui nous suit à Nouakchott, Rosaire à Franceville, Mohamedou à Maroua et un salut également à Ibrahima, Gallo et Augustin à Dakar.
Une semaine d'actualité.
Et partons donc pour l'Afrique, Julia Cagé, en passant d'abord par Paris, afin de reparler d'une information importante, un peu passée inaperçue. Après 20 ans de rebondissement, le parquet de Paris demande en effet l'abandon des poursuites contre les proches du président rwandais Paul Kagame, soupçonné par la justice française d'être impliqué dans l'attentat de 1994 qui a déclenché le génocide des Tutsis. Le parquet réclame un non-lieu contre les 7 protagonistes mis en examen, tous issus du camp de Paul Kagame, estimant que l'enquête n'a pu réunir de charges suffisantes à leur encontre. Julie Vandal.
C'est un réquisitoire définitif daté du 10 octobre et signé du substitut du procureur Nicolas Renucci. 94 pages au total, dans lesquelles le ministère public demande l'abandon des poursuites contre les 9 protagonistes soupçonnés d'être impliqués dans l'attentat. Raison avancée, les 20 ans d'enquête n'ont pas permis de réunir de charges suffisantes contre eux. Pour maître Philippe Reillac, avocat d'Agathe Habyarimana, la veuve du président rwandais assassiné, ce réquisitoire est totalement inacceptable.
C'est une position du ministère public qui ne surprend pas. S'il y a une explication de toute évidence politique, et j'en veux pour preuve que ces réquisitions tombent le jour, quand même le faire, le jour de l'élection d'une haute dignitaire rwandaise dans le cadre de l'organisation de la francophonie, pour autant qu'elles ne nous surprennent pas, elles sont totalement inacceptables.
Maître Bernard Minguin défend 7 proches du gouvernement de Kigali. Il salue une avancée importante.
Nous sommes heureux parce qu'une étape importante est en train d'être accomplie. Et nous espérons que dans les semaines et les mois qui viennent, ces personnes pourront enfin être lavées de tout soupçon et verront leur honneur rétabli.
Les parties civiles et la défense devront remettre leurs commentaires sur ce réquisitoire dans les prochaines semaines. La décision finale sur la tenue ou non d'un procès est désormais entre les mains des juges d'instruction du pôle antiterroriste.
L'actualité africaine cette semaine, c'est aussi des journées villes mortes en Guinée, à l'appel de l'opposition. Les élections municipales en Côte d'Ivoire, grand vainqueur le RHDP, avec 46% des voix et 92 communes. Le PDCI a obtenu, lui, 28% des suffrages et emporte 50 localités. Suite d'une semaine d'actualité au Sénégal, cette fois avec des manifestations de commerçants contre le groupe français Auchan. Reportage mardi de Guillaume Thibault.
Si la concurrence est sa loi, le secteur du commerce s'est allié lorsqu'il se sent en danger. Et c'est une marée rouge, couleur des casquettes Auchan dégage distribuées, qui se retrouvait place de l'Obélisque. En première ligne, Leïti Sen, coordinateur du collectif.
Nous sommes super satisfaits de la mobilisation. Tout le monde est fatigué. Il faut que ces magasins ferment et dégagent du pays. Il n'y a pas de négociation.
Marché réputé de Dakar, les vendeuses de Carmel se sont fortement mobilisées. Fatou Diarra s'improvise porte-parole et évoque la pauvreté des marchands.
Tout est foutu. Quand on achète nous 500 francs pour vendre à 700, Auchan va vendre à 400 ou 300. C'est pas normal. Nous, on gagne rien. On est pauvres maintenant.
Vendeurs, mais aussi agriculteurs, maraîchers, quincailliers. Cette manifestation contre Auchan a réuni tous les métiers du commerce. Pour le militant du collectif France Dégage, Guy Marius Sagna, la crainte, c'est l'arrivée de nouvelles enseignes.
Auchan va prendre les bénéfices et va les rapatrier à l'extérieur. Les autres grandes enseignes, on annonce Leclerc, Carrefour, etc., qui vont venir au Sénégal. C'est pas eux qui vont développer le Sénégal.
La direction du groupe français est restée ce mardi injoignable. Auchan prévoit de nouvelles ouvertures de magasins partout au Sénégal.
Avant de vous retrouver, Julia Cagé, partons au Mali, un pas peut-être vers une baisse des tensions dans le nord du pays. Le gouvernement, les groupes armés ont signé en effet ce que l'on appelle un pacte pour la paix. Gaël Lalex.
Après 3 ans de stagnation, il faut redonner un coup de fouet à l'accord d'Alger. C'est plus ou moins le message envoyé par ce pacte de paix qui avait déjà été évoqué lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre dernier. Le texte est court, 2 pages, il n'en fallait pas plus pour fixer un objectif simple, avancer. Pendant 3 ans et demi, cet accord a subi une sorte d'immobilisme qui a découragé presque tous les acteurs, confie Mohamed Oulmahmoud, porte-parole de la CMA. Nous repartons du bon pied avec des objectifs clair, se félicite-t-il. Le pacte de paix prévoit notamment que les décisions de la médiation internationale deviennent exécutoires. Cela signifie donc que les parties du comité de suivi de l'accord de paix qui ne sont pas maliennes peuvent imposer des décisions aux autres parties. Sur les priorités, les groupes armés parlent d'une même voix. Il faut faire le point sur les réformes institutionnelles prévues par l'accord de paix et mettre en œuvre au plus vite le programme de désarmement et démobilisation. 2 écueils sur lesquels le gouvernement et le CSA échouent depuis 3 ans.
Suite d'une semaine d'actualité, Julia Cagé, revenons donc à ce financement de la vie politique. Il faut préciser aussi que dans votre livre, vous ne parlez pas uniquement des partis politiques, du financement privé, des financements publics, des campagnes également. Vous dites aussi un mot, parce que c'est très important, vous qui avez écrit un livre qui s'intitule « Sauver les médias » publié au Seuil en 2015, vous parlez aussi des journaux, des groupes de presse, vous parlez aussi même des think tanks, ce qu'on appelle les think tanks, c'est-à-dire les laboratoires d'idées, je ne sais pas comment on peut traduire ça, qui influencent aussi la vie politique.
Oui, moi la question que je me pose dans le livre est la suivante. Aujourd'hui, vous êtes millionnaire, vous êtes milliardaire, vous voulez influencer le débat public.
Parce qu'il s'agit de ça, influencer.
Influencer le débat public. De toute façon, vous pouvez faire 2 choses. Soit vous pouvez influencer directement le jeu électoral, soit vous pouvez influencer, changer les termes du débat public, essayer de changer les préférences. Donc vous faites quoi? Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez donner aux partis politiques, vous pouvez donner aux campagnes électorales. Le problème, c'est que ça, dans un certain nombre de pays, vous pouvez pas le faire de manière illimitée parce qu'il y a des régulations. Donc vous allez utiliser votre argent autrement, vous allez financer des think tanks qui peuvent être extrêmement puissants dans un certain nombre d'endroits. Et pour le coup, là, c'est jamais limité. Donc si vous voulez donner plusieurs millions d'euros à un think tank, on a, dans le cas américain, avec les fameux frères Koch, les Koch Brothers, comme on les appelle, on parle aussi de pieuvres, en fait, autour des frères Koch. Eux, ils créent les think tanks, et d'ailleurs ils financent aussi la recherche, ils financent des chaires de recherche dans les universités, où vous pouvez aussi, autre forme que peut prendre votre argent pour influencer le débat public, c'est acheter des médias. Donc on voit finalement qu'il y a énormément de possibilités qui sont données, et moi je pense que c'est vraiment dangereux pour le débat démocratique. Il faut essayer de réguler tout cela au mieux. Dans l'actualité récente, les annonces qui ont été faites autour de la possible entrée au capital du monde d'un milliardaire tchèque, qui est en train de faire son marché, d'ailleurs en France, puisqu'il n'arrête pas de multiplier les acquisitions dans les différents médias, le dernier étant Marianne, me semble extrêmement dangereuse. J'espère que ça ne se fera pas. En tout cas, je soutiens les journalistes dans leur combat par rapport à ça. Tout à l'heure, on parlait de liberté de la presse. C'est vrai qu'en termes de liberté de la presse, on va un peu mieux en France que malheureusement dans beaucoup de pays arabes où non seulement les journalistes sont empêchés de travailler, mais parfois ils sont envoyés en prison. En Turquie, on ferme les journaux. C'est pas quand on n'assassine pas les journalistes. Quand même, il y a un danger qui pèse assez fortement sur la liberté de la presse. C'est la question de l'indépendance des journalistes, notamment du fait de l'actionnariat des différents médias.
Alors, venons-en pour conclure cette émission aux propositions que vous faites, parce que non seulement vous analysez, mais vous proposez, ce qui est précieux aujourd'hui, pour 2 choses, pour refondre le système de financement des partis, et vous proposez dans une 2e chose, qui est encore plus une proposition plus politique, c'est la création d'un Parlement qui serait plus représentatif. D'abord, ce qu'il faudrait refaire pour repartir à zéro, en quelque sorte, dans le financement des partis politiques.
D'une part, il faut limiter drastiquement les dons privés, donc moi je propose d'instaurer un plafond à 200 euros.
Pas les éliminer, les réduire considérablement.
Oui, parce qu'on a quand même des militants qui sont engagés, qui paient une cotisation chaque année auprès de leur parti politique. 200 euros, ça me paraît être un montant qui permet d'égaliser tous les Français face à la possibilité de financer les partis politiques. Donc je limite le montant des dons privés à 200 euros. Ensuite, je propose les bons pour l'égalité démocratique. C'est quoi les bons pour l'égalité démocratique? Il s'agit de remplacer le système actuel de financement public de la démocratie par le système suivant. On donne chaque année à chaque Français peu importe ses revenus ou son patrimoine, hein, c'est un système qui est égalitaire, le même montant d'argent public, 7 euros d'argent public, à allouer à travers sa feuille d'impôt au mouvement politique de son choix. C'est quoi l'avantage de cette solution ? Bah, d'une part, c'est égalitaire. Ça, c'est pas un avantage négligeable vu ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et d'autre part, ça permet de dynamiser le financement public de la vie politique. Pourquoi ? Parce que ce financement, au jour d'aujourd'hui, en France, et c'est pas propre à la France, il est figé par intervalle de 5 ans. Le montant du financement public que vous recevez aujourd'hui en France comme parti politique est fonction du score que vous avez obtenu aux dernières élections législatives. Donc en fait, pour vous présenter à l'élection législative suivante, il faudrait déjà avoir fait un score précédent à l'élection législative précédente. Qu'est-ce que ça empêche ? Ça empêche l'émergence de nouveaux partis entre deux élections, sauf si vous êtes en marche. C'est-à-dire, sauf si vous êtes un parti marqué à droite du point de vue économique, donc conservateur économiquement, et que vous allez aller lever votre argent auprès de donateurs privés, ce qui impacte ensuite les politiques que vous allez mettre en œuvre dans le cas d'Emmanuel Macron, suppression de l'impôt sur la fortune, mise en place d'une flat tax sur le capital, etc., etc. Mais si vous êtes nuit debout, si vous êtes un mouvement marqué plus à gauche politiquement, vous n'arriverez pas à lever de l'argent entre deux élections auprès de riches donateurs, parce qu'ils n'auront pas intérêt à vous financer. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, parce que la vie politique, je suis désolée, elle n'est pas figée par intervalle de 5 ans, on a des nouvelles idées, des nouveaux mouvements qui émergent sans cesse, c'est redynamiser et donc annualiser.
Il y a même une demande croissante de démocratie, Pierre Rosanvallon nous l'explique très bien d'ailleurs.
Justement, il y a une demande croissante de démocratie. Et Pierre Rosanvallon dit dans ses livres, il faut faire la démocratie en continu. Mais comment on fait la démocratie en continu ? Aujourd'hui, un mouvement politique qui apparaît entre deux élections va mourir du fait de l'absence de financement. Donc pour faire la démocratie en continu, il faut pour commencer dynamiser le financement public de la démocratie. C'est ce que permettent les bons pour l'égalité démocratique, puisque si vous avez d'une année sur l'autre l'émergence d'un nouveau mouvement politique, je donne 7 euros d'argent public, la même somme à tous les citoyens, pour financer, s'ils le souhaitent, ce nouveau mouvement politique par exemple.
Alors la deuxième proposition que vous faites, c'est créer un parlement qui soit plus représentatif sur le plan social, j'imagine.
Oui, sur le plan social. Il y a un des constats que je fais dans le livre, hein, quand j'arrive au bout de ce tour du monde, c'est que malheureusement aujourd'hui la crise de la représentation est telle que pour la résoudre, il faudra en partie réformer le financement de la démocratie, mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni, les ouvriers, les employés, les travailleurs précaires, c'est environ 50% de la population active. C'est moins de 5% des députés. On a des députés qui aujourd'hui ne sont plus à l'image des Français. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale française, il y a 0 ouvriers. Il n'y en a pas un seul. Alors après, on peut avoir une discussion philosophique sur la notion de représentation. Est-ce que avoir des représentants qui nous représentent vraiment, ça suppose d'avoir des représentants qui sont à notre image ? Il y a quelque chose qui a été extrêmement bien documenté, notamment par Nicolas Carnès, qui est un chercheur aux États-Unis. C'est le fait que les ouvriers et les employés ne votent pas pareil que les anciens cadres supérieurs. Et qu'il y a un certain nombre de lois qui ne seraient jamais passées si on avait eu une Assemblée nationale qui soit davantage représentative. Donc moi, ce que je propose, c'est que de la même manière qu'on a utilisé les outils de l'état de droit pour instaurer de la parité homme-femme à l'Assemblée nationale, on ait aussi, au moment de l'élection, des listes qui soient paritaires socialement, avec au moins une moitié d'employés, d'ouvriers et de travailleurs précaires sur ces listes présentées par les mouvements politiques aux élections.
Merci Julia Calgé, votre livre est aussi enthousiaste que vos propos à la radio, il est extrêmement précis, en tout cas je le recommande. Il s'intitule Le prix de la démocratie, il est publié chez Fayard, merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée par Steven Hesley, je vous retrouve demain pour le magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde dont vous faites partie, Julia Calgé, durant près d'une heure. Demain nous parlerons d'un pays disparu, des traces que laisse dans les esprits et parfois dans les cœurs un pays disparu, en l'occurrence ici la RDA, l'Allemagne de l'Est. Nous serons en compagnie d'un historien, Nicolas Offenstadt, qui fouille dans les bâtiments désaffectés encore debout pour retrouver des traces, des archives d'une époque révolue, par exemple. Vous verrez, c'est passionnant. Demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.